We gaan weer beginnen.
Oké. Okay.
On recommence. We will start again.
Non, laisse.
Christophe Lazzaro will speak in French. So if you want to make use of the excellent translation service in French, in English or in Dutch, please get your headset. Oh yeah, I'm okay. I have a souffleuse there. Yes. Okay, I'm going to close the door. Otherwise, you get even more sick. So we're very happy that he's here for many reasons. Apart from many of them, is that you're basically well, you have to sit because otherwise.
Yeah, I'm sorry, but I'm a bit ill, so.
But still, he's here.
That's why I will speak in French.
It's easier. Christophe came to the last edition of Verbinding as Jonction, and then after he published this book, and it was very exciting for us to discover it, because to have someone that is philosopher, anthropologist, but also lawyer, speak about the Debian community is a dream come true. Well, if that's true, we will hear soon. Wait. But his talk will be trying to think about how the sort of textual practice, which is both coming from code, as coming from law, as coming from software philosophy, is actually influencing the way the Debian community is built. Debian is, I don't know, you will introduce?
I will introduce
so we
the...
will start from scratch there.
Okay.
So, very warm welcome to you.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir de venir. Donc, on m'a demandé de parler de la communauté Debian. Donc, en quelques mots, je vais essayer de vous la décrire. La communauté Debian, c'est un collectif d'environ un millier de développeurs, plus de très nombreux utilisateurs, très difficile à quantifier évidemment, qui essayent de produire un système d'exploitation qui est basé sur le noyau Linux. Alors, la communauté Debian est très particulière, notamment dans l'histoire, la brève histoire du mouvement du libre, pour différentes raisons. Mais je crois qu'on peut souligner deux raisons principales. C'est que la première raison, c'est qu'elle se caractérise par un gigantisme technologique. Donc la communauté Debian essaye pas seulement, en fait, ne se limite pas seulement à faire un système d'exploitation, mais bien sûr à créer toutes sortes d'autres logiciels, mais aussi des logiciels pour installer la distribution elle-même, pour organiser le travail entre développeurs. La communauté Debian essaye aussi de diversifier le type d'architecture sur lequel la distribution peut être installée. Donc, ça peut aller du simple Palm Top au super ordinateur. Il y a 12 architectures différentes qui sont visés. Donc vraiment, on a affaire là à une communauté qui a une grande ambition d'un point de vue technologique. Deuxième caractéristique qui est très intéressante à analyser et qui peut-être qui m'intéresse un peu plus dans le sens où j'essaye de comprendre comment la socialité fonctionne au sein de la communauté Debian, c'est que Debian est caractérisé par un très haut degré de sophistication politique et institutionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que il existe toute une série de règles formalisées dans des documents, comme une constitution, par exemple, qui vont permettre d'organiser les modalités de coopération, d'entraide, de partage au sein de la communauté. Donc voilà l'esquisse de ce qu'est la communauté Debian. Et je vais essayer maintenant d'adapter l'angle d'analyse au thème de ce festival. Alors Le thème de ce festival, c'est qu'est-ce qu'on entend par pardonner, c'est qu'est-ce qu'on entend par littérature grise, et par là on vise tous ces documents avec lesquels les développeurs, mais aussi les utilisateurs, entrent en dialogue au moment où ils sont plongés dans leurs activités. Alors, ces documents, ils peuvent être de différentes natures au sein de la communauté Debian. Ça peut être des documents, ben, forcément, de nature purement technique, comme par exemple, ce sera des modes d'emploi, des guides destinés à expliquer aux développeurs comment maintenir un paquet, comment développer un programme. Ça peut être des documents de nature juridique, parce que vous savez sans doute tous que la principale activité, souvent au sein de ces communautés, la principale activité du développeur, à vrai dire, c'est d'empaqueter. Ça veut dire de transformer un logiciel existant déjà et de le transformer sous forme de paquet pour l'intégrer dans la distribution. Alors, il faut savoir que généralement, ces logiciels-là sont associés à des licences d'utilisation. Donc, inévitablement, les développeurs sont amenés à devoir entrer en dialogue et combattre et parfois vraiment se casser la tête sur des licences d'utilisation qui sont du droit, donc qui sont des contrats, et c'est souvent très, 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 très difficile. Donc, documents de nature technique, documents de nature juridique, documents de nature organisationnelle ou institutionnelle, comme la Constitution. Alors, pour vous donner peut-être un petit aperçu, où est-ce qu'on la trouve, cette Constitution, voilà, Developer Corner, la Constitution. Voilà, donc la Constitution, eh bien, c'est véritablement un instrument textuel qui est d'ordre législatif, donc qui va définir tout un certain nombre d'abord d'acteurs. Alors on voit ici, on voit par exemple qu'il y a les développeurs individuels qui sont, bah, disons, chacun des développeurs de la communauté qui est vraiment l'acteur central de la communauté, mais il y a un chef de projet. Il y a aussi un comité technique, un secrétaire de projet, et la Constitution va définir tout un certain nombre de procédures, de responsabilités. Donc voilà, donc document de nature institutionnelle. Et alors un dernier type de document, c'est les documents de nature plus philosophique ou idéologique, comme le fameux contrat social de Debian. Et vous pouvez voir qui est mentionné vraiment en tout début de site, et qui caractérise la communauté, et on aura l'occasion d'y revenir. Donc, voilà, après avoir brièvement décrit ces différents documents, je vais un peu expliquer quelle est mon ambition dans cet exposé. Mon ambition, elle est double. D'abord, c'est de montrer que finalement, le code informatique, le code source, et ces différents types de textes sont intrinsèquement liés. Et que pour bien comprendre le fonctionnement de la communauté, selon moi, c'est vraiment il faut vraiment les analyser en miroir, et il faut analyser la conjonction qu'il y a entre, je dirais, la normativité technique propre au code source et la normativité plus organisationnelle liée à ces autres documents. Alors, vous me direz, bah, c'est assez banal ce que je dis, vu qu'à la base du mouvement libre, la base du mouvement libre repose sur cette association bizarroïde, sur cet hybride technico-légal qu'est le code source et la licence copyleft. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce domaine, il y en a certains dans la salle, je vais peut-être rappeler ce que c'est le copyleft. Alors, le copyleft, c'est comment en droit, c'est une belle petite invention juridique en fait, comment en droit on prend le contre-pied du copyright et donc des règles qui normalement sont là pour protéger l'auteur. Le copyleft, c'est dire on va essayer de maintenir l'intention originelle de l'auteur. L'auteur a voulu partager son travail avec d'autres, ouvrir le code source, et le copyleft, c'est une licence d'utilisation qui se greffe au logiciel et qui va imposer à chaque utilisateur successifs. Lorsqu'il veut distribuer, lorsqu'il veut adapter le programme, mais le distribuer, le diffuser successivement, qui va donc maintenir l'intention originelle de l'auteur d'ouvrir le code. Et donc, il empêche en fait toute appropriation privative. Donc, c'est le copyleft, c'est ça l'invention. Parce que sinon, je pourrais très bien... quelqu'un met à disposition un logiciel avec du code ouvert... Je prends, je le modifie et je le revends. Et j'instaure le modèle privatif habituel. Donc le modèle propriétaire habituel. Voilà ce que c'est le copyleft. Mais quand on y réfléchit, ok, le mouvement libre est fondé sur cette association entre code source et licence copyleftée. C'est pas suffisant de dire ça. C'est pas suffisant parce que ça n'explique pas toute une série de choses. Ça n'explique pas pourquoi, au sein de ces communautés, on partage, on coopère, on donne, on contredonne. Alors, je vais essayer d'être simple. Parce qu'en fait, ces fameuses licences copyleftées, elles induisent une viralité de l'intention originelle de l'auteur, mais elles n'obligent personne à redonner. Donc, je m'explique. Je télécharge un logiciel libre. Je le modifie. Je lui apporte certaines améliorations, mais la licence copyleftée ne m'impose pas du tout de redistribuer mes améliorations. Et qu'est-ce qui va justement essayer, qu'est-ce qui va faire en sorte de nourrir ce sentiment de partage, de coopération? Eh bien, mon hypothèse, c'est que entre ces deux choses, il y a toutes ces séries de textes. Toutes ces séries de textes, et notamment le contrat social de Debian, qu'on va analyser un petit peu en profondeur. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi jusque-là, s'il y a des questions, si tout est clair. Oui ? Ok. Donc, on va quand même s'attarder à nouveau sur ces fameux... On analysera le contrat social un peu après, parce que j'aimerais bien vraiment vous montrer... Et ça me permet aussi de vous décrire un peu mieux la communauté Debian. Quels sont ces différents documents, ces différentes ressources textuelles avec lesquelles les acteurs entrent en dialogue. Alors, on va commencer par la plus évidente de ces ressources textuelles. C'est les listes de discussion. En fait, les listes de discussion et tout le contenu, donc tout le contenu des échanges entre les différents protagonistes de ces listes de discussion. Les listes de discussion chez Debian, c'est l'outil principal, un des outils principaux de travail. Ça permet vraiment d'assurer une forme spécifique d'organisation et de division cognitive du travail entre usagers et développeurs. Alors, moi, quand j'ai commencé à un peu fouiller dans... et commencer ce terrain ethnographique ou socio-anthropologique, appelons-le comme ça, j'ai été vraiment frappé par le nombre de mailing lists. Alors, les mailing lists, c'est pas très important, les mailing lists, il y en a environ 160. Donc 160 mailing lists, parfois il y en a un peu moins, parfois il y en a un peu plus, ça varie en fonction des années. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle conclusion on peut tirer de cette multiplicité? D'abord, c'est très simple, elles mettent en évidence différents types de segmentation dans la communauté. Alors premier type de segmentation, c'est qu'elles permettent d'organiser la division des tâches et des thématiques techniques. Donc... il existe au sein du projet Debian une diversité de tâches à accomplir. Je vous ai dit, gigantisme technique, il faut vraiment diviser le travail. Alors, on va trouver des listes spécifiques qui sont dédiées à des activités comme le système de suivi de bug, les problèmes de traduction et d'internationalisation, les questions juridiques, le noyau du système d'exploitation, les environnements graphiques, bref, j'en passe. Ça, c'est un premier aspect. Donc, cette segmentation thématico-technique. Deuxième segmentation, c'est qu'on remarque que ces listes de discussion aussi sont parfois organisées par zone géographique. Et donc, on retrouve, par exemple, des listes de discussion Debian French, Debian Chinese, Debian Russian, Parce que la volonté de, et d'ailleurs c'est le slogan de la communauté Debian, c'est de faire un Universal Operating System. Donc traduit dans toutes les langues, ou en tout cas l'information et la communication se fait dans le plus de langues possible. Donc voilà un peu pour ces listes de discussion. Dernier point importantissime, évidemment, c'est que la plupart de ces listes de discussion sont accessibles au public. Alors, elles sont d'accès libre. Tout le monde peut s'inscrire à ces listes de discussion. Il en existe certaines qui sont tout à fait privées, mais elles sont rares au niveau de la proportion. Ce qui contribue, en fait, et c'est ça qui est très intéressant, ce qui a été très intéressant et très compliqué dans mon analyse, ce qui contribue à joindre sur une même liste de discussion à la fois des utilisateurs et à la fois des développeurs. Et à essayer de comprendre comment ils travaillent ensemble. Alors, je dirais, pour conclure ce petit mot sur les listes de discussion, c'est que l'utilisation de ces listes passe véritablement par un apprentissage. La bonne utilisation de ces listes, l'utilisation pertinente et judicieuse de ces listes, notamment à travers le fait de poser des bonnes questions, eh bien, fait partie du processus de socialisation. C'est-à-dire, pour être pertinent, il faut se repérer dans ce dédale que sont les listes des discussions et surtout les archives, connaître les archives. Parce que sinon, si on pose une mauvaise question, eh bien, souvent, on sera sanctionné en disant, tout simplement, on va vous dire, c'est une requête peu pertinente, ce sujet a déjà été traité, va voir sur telle liste de discussion, telle date, tel échange, tel thread, tel fil. Ou alors, dans le pire des cas, on va vous mettre un gentil petit message, par exemple, le fameux RTFM, Read the Fucking Manual. OK ? So, c'est rare, hein. C'est vraiment rare. Donc voilà, ces listes de discussion, c'est un outil vraiment crucial et qui nécessite un apprentissage véritablement, qui nécessite de s'y retrouver dans cette communauté et dans ces archives. Donc ces archives, c'est vraiment une des premières ressources textuelles de la communauté Debian. Deuxième ressource que je vais évoquer assez brièvement, j'y avais déjà fait allusion tout au début, c'est les documents de nature technique. Alors, les documents de nature technique, c'est un ensemble de bonnes pratiques, en fait, qui sont destinées à faciliter le travail technique, mais surtout à coordonner l'action des développeurs qui sont situés aux quatre coins du monde. Le document technique le plus crucial, je ne vais pas le montrer ici, ça s'appelle la charte Debian en français, en anglais Debian Policy, et qui fixe un ensemble de standards assez complexes destinés à assurer, par exemple, la qualité des paquets, la parfaite interopérabilité des paquets, la fonctionnalité de l'ensemble des paquets de la distribution. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre ? Je dirais qu'à côté de ce document technique très important, il en existe d'autres, comme la référence du développeur, la référence du développeur Debian, qui en fait est un document qui synthétise toutes les procédures qu'un développeur doit respecter, tout, par exemple, qui explique comment devenir développeur, quelles sont les obligations d'un développeur, quel est le rôle du développeur. Donc, voilà pour ce qui est des documents de nature technique. Documents de nature juridique, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Documents de nature institutionnelle, j'en ai parlé. Gardez bien en tête que cette constitution n'est pas un document fossile, n'est pas un document qui reste lettre morte, c'est vraiment un document assez vivant, on y fait référence souvent, et parfois il est question de la modifier. Et il y a des procédures spécifiques qui sont prévues à cet effet. Donc un grand formalisme juridique, si je peux me permettre, mais on verra à la fin de l'exposé qu'il ne s'agit pas du tout de juridicité ou de législation dans le cas de la communauté Debian. C'est bien plus subtil. Les mécanismes de régulation sont bien plus subtils. Alors, maintenant, entrons un peu dans le vif du sujet de mon exposé. Moi, ce qui m'a fasciné dans cette communauté, c'est le contrat social. Alors, déjà, honnêtement, rien que pour le terme, contrat social, c'est un terme qui, d'un point de vue philosophique, est pour le moins chargé de signification. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Peut-être vous expliquer le contexte. En fait, le projet Debian a été plus ou moins lancé en 1993. Et ce n'est que quelques années après, 3 ans après, en 1996, que ses membres, qui étaient encore assez peu, ont décidé de formaliser leur philosophie ou leur idéologie dans des documents qu'ils ont qualifiés eux-mêmes de fondateurs, des documents fondateurs. Le terme est même repris dans la Constitution aussi. L'idée, c'était d'exposer quelle était la philosophie du libre. Et je dirais que cette idée-là de créer un contrat social s'inscrit dans un contexte assez déterminé. C'est qu'à l'époque, on voit apparaître sur le marché, si vous me permettez l'expression, une diversité de licences qui sont susceptibles d'accompagner les logiciels, de licences libres. Et donc, au bout du compte, les membres de la communauté Debian étaient un peu perdus. C'est-à-dire, OK, il y avait la GPL, la General Public License, qui est mythique, mais après, il y en avait tout plein d'autres. Et donc, comment définir ce qui était libre pour la communauté ? Qu'est-ce qu'on allait considérer comme un logiciel libre, ou en tout cas comme une licence libre ? Et donc, ils ont décidé de formaliser leur pensée, la pensée du libre, c'est quoi la liberté, dans ce document. Voilà pour l'origine. Alors, ce document est constitué de deux parties. Une première partie qui s'appelle « Social Contract with the Free Software Community ». Ça, c'est la première partie qui est beaucoup plus philosophique ou idéologique. Et la deuxième partie qui s'appelle « The Debian Free Software Guidelines ». OK ? Alors, ces deux parties doivent se lire en miroir. Ces deux parties vraiment résonnent l'une par rapport à l'autre. Alors, on va brièvement les examiner. Alors, voilà, donc je vous ai expliqué un peu le contexte. La communauté Debian décide de publier un document pour expliquer sa philosophie à la communauté libre, au mouvement libre. Et elle va formaliser 5 grands principes. Alors, premier grand principe, c'est la règle d'or de Debian, c'est que l'ensemble logiciel développé par Debian reste libre, doit être libre. Et comment est-ce qu'on décide de ce qui est libre ? C'est en faisant référence au Debian Free Software Guidelines. Donc d'emblée, ces deux documents doivent se lire en parallèle. Deuxième principe, we will give back to the free software community. Je dirais que là, c'est vraiment la consécration d'un principe de coopération, de diffusion et de partage des connaissances, propre à beaucoup d'autres communautés libres. Troisième point, et ça, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec Nicolas aussi, c'est le principe de transparence. Donc, c'est Debian décide de ne jamais cacher les problèmes. Pour votre information, tous les bugs, toutes les difficultés techniques auxquelles se heurtent les développeurs sont répertoriées dans une base de données qui, à tout moment, est consultable. Alors, voilà. Là où, petit à petit, on entre dans le côté un peu plus ambigu et un peu plus délicat de la communauté Debian, c'est par rapport à ces deux derniers principes. Our priorities are users and free software, works that do not meet our free software standards. Alors, de quoi s'agit-il ? Et c'est vraiment ce qui marque la particularité de la communauté Debian, c'est que Debian d'abord de manière assez ambiguë et assez vague, fait allégeance à la communauté des utilisateurs et de ses utilisateurs. Elle dit « Nous faisons tout pour nos utilisateurs ». Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, satisfaire la boulimie technique des utilisateurs. Donc, on revient au gigantisme technologique auquel je faisais allusion. Deuxième point, plus vague, et donc elle réitère l'engagement particulier de Debian à l'égard de la du mouvement libre. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des travaux non libres? Eh bien, comme le parti pris de Debian, c'est de faire plaisir à ses utilisateurs, on va dire ça comme ça, Debian va, en vertu du contrat social, témoigner d'une certaine tolérance à l'égard des travaux qui ne sont pas libres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratique? Ça veut dire que la version de la distribution est divisée en trois sections. Une section main, une section contrib et une section non-free. Et donc, on a véritablement dans la distribution une section non-free qui contient toute une série de paquets auxquels sont associées des licences non libres. J'essaie vraiment de simplifier parce qu'on peut entrer vraiment dans des détails très techniques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Debian tient compte des besoins des utilisateurs qui auraient besoin d'utiliser des logiciels qui ne font pas partie telle quelle de la distribution Debian, qui ne sont pas libres, mais dont les utilisateurs ont besoin. Et Debian met son infrastructure à disposition de ces paquets non libres. Donc c'est tout à fait crucial. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est ce qui marque la tendance pragmatique de la communauté Debian, à l'inverse de ce que certains commentateurs, certains critiques ont appelé la tendance éthique, par exemple, la Free Software Foundation. Donc on a là deux tendances, la tendance pragmatique Debian, la tendance éthique qui s'affrontent. Mais on verra que c'est bien plus subtil que ça. Alors, les principes. Donc là on a l'engagement de la communauté Debian à l'égard de toute la communauté et ces fameux principes, donc le Debian Free Software Guidelines. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces principes qui sont énumérés là sont très techniques et il s'agit d'un code du libre selon Debian. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir juger si une licence est libre ou non? Et toute une série de critères sont énumérés. Critères qui, comme ça va être très clair dans l'esprit de tout le monde et pour ceux qui sont néophytes aussi, qui rappellent les fameuses quatre libertés de la GNU GPL. Liberté, donc, je cite, liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à vos besoins, ce qui nécessite l'accès au code source, la liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin, et enfin la liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations pour en faire profiter toute la communauté. Voilà les fameuses quatre libertés de la GNU GPL et qui se retrouvent de manière sophistiquée dans les guidelines. Deux remarques. Les guidelines, ces fameuses guidelines, ce n'est pas une licence. Donc il ne faut pas la comparer à la licence GPL. C'est véritablement une grille d'évaluation. Et que dire d'autre? Et ces guidelines sont utilisés de manière quotidienne. Et on y fait référence de manière quotidienne. On va essayer d'entrer maintenant dans le détail. Je vais essayer de montrer que ce contrat social a vraiment une grande vitalité, que ce n'est pas une espèce de texte figé, et qu'il faut le considérer, si vous me permettez l'expression, ou si vous me permettez d'employer par exemple la terminologie de Latour, comme un actant. C'est un actant, c'est un acteur qui permet la médiation, qui permet de mobiliser, qui permet de susciter la controverse, et donc qui permet à la communauté Debian d'avoir un mouvement réflexif par rapport à elle-même. On va voir comment. Alors, d'abord, ce que j'ai remarqué en faisant des enquêtes, c'est que ces textes fondateurs sont fréquemment évoqués par les membres du projet Debian, et il est fait très, très souvent référence à ces, à ce contrat social, dans les forums de discussion. Et la notoriété de ce contrat social dépasse le cadre du projet Debian lui-même. Donc ce n'est pas seulement dans la communauté Debian. Beaucoup de personnes que j'ai interrogées, qui n'étaient pas nécessairement utilisateurs Debian ou qui n'étaient pas particulièrement sympathisants avec le projet Debian, m'ont dit « Ah, mais Debian, ils ont un contrat social. » Ok. Souvent, on mentionnait ça. Alors, donc, on peut dire de ce contrat social qu'il marque l'identité. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, sans doute la mailing list dans laquelle il est le plus fréquemment fait référence au contrat social, c'est la mailing list consacrée aux questions juridiques. Alors, cette mailing list, elle peut sembler anecdotique, mais ce n'est pas le cas, puisque à chaque fois qu'un développeur veut commencer à empaqueter un logiciel, à fabriquer un paquet, il doit faire face à tous les problèmes de licence, tous les problèmes juridiques qui sont liés à la licence de ce logiciel. Alors, donc, je dirais, ça c'est une première chose, on pratique ces Free Software Guidelines, elles font partie de la pratique, mais surtout de la pratique des experts juridiques, on va dire, de la communauté, parce qu'il y en a. Alors, mais la vitalité de ce texte se fait sentir à d'autres occasions, et lors d'événements qui rythment véritablement la vie du projet. Premier événement, par exemple, c'est lors des campagnes d'élection du chef de projet. Donc, comme dans un processus, n'importe quel processus démocratique, il y a élection du chef de projet en vertu de la Constitution, et chaque année, puisque le mandat n'est que d'un an, il y a une campagne électorale, et là, le chef de projet va très régulièrement évoquer le contrat social, cette fameuse section non-free. Voilà. Alors, il y a aussi un autre moment de la communauté où le contrat social est évoqué, où il est débattu, c'est une des particularités de la communauté, c'est l'épreuve de sélection des candidats développeurs. Alors, je vais dire deux mots sur l'épreuve de sélection des candidats développeurs, parce que parce qu'elle est très particulière. Elle est très particulière et il s'agit véritablement d'un rite d'initiation, un rite de passage assez dur. Alors, généralement, au sein du mouvement du logiciel libre, le recrutement des nouveaux développeurs se fait sur deux bases, la cooptation et l'apport qui a déjà été réalisé au produit. Mais dans le cas du projet Debian, cette sélection a été formalisée au sein d'épreuves tout à fait spécifiques qui mêlent à la fois des aspects techniques et à la fois des aspects idéologiques ou philosophiques. Et donc, cette procédure de sélection est stricte et longue. Alors, pour vous donner une idée, cette procédure de sélection peut durer entre 477 jours et 691 jours, soit 2 ans. OK ? C'est des statistiques qui sont, en tout cas, qui étaient publiées il y a quelques temps sur le site même de Debian, donc je les invente pas. Voilà le temps que peut prendre pour devenir développeur Debian. Alors quelques mots sur cette procédure de sélection, c'est que en principe, on peut pas s'improviser développeur comme ça ou mainteneur Debian. Il faut déjà être capable d'effectuer son futur job de développeur. Donc, ça implique d'être déjà familier avec la distribution Debian et d'avoir acquis de l'expérience, par exemple en matière d'empaquetage, en matière de maintenance des paquets, en matière d'écriture de documents, de documentation, de traduction, ou alors en ayant envoyé des correctifs, des rapports de bugs, toute une série de choses. Il est donc recommandé, en général, à la personne intéressée, d'avoir un parrain. Et ce parrain va alors agir un peu en tant que mentor et accompagner le candidat. Au moment où le candidat, ou en tout cas le parrain et le candidat, l'estime opportun, le futur développeur va poser sa, de manière officielle sa candidature. Et là, il va être soumis à deux tests. Des tests d'aptitude qui sont divisés en deux catégories. Premier test tout à fait évident dans ce type de communauté, le test de nature technique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Deuxième test, c'est le test lié à la philosophie du projet Debian. Alors, on peut dire que ce test, d'après les différents entretiens que j'ai pu avoir, se compose autour de trois parties. Première partie, c'est connaître l'historique de la communauté. Deuxième partie, c'est comprendre la philosophie du projet Debian. Et troisième partie, la plus casse-tête, c'est savoir faire un bon usage des Free Software Guidelines et donc savoir évaluer la qualité ou le degré de liberté d'une licence. Donc, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire brièvement de cette procédure de sélection ? C'est que le contrat social y est fondamental. Il permet indiscutablement, ça permet de garantir, de faire en sorte qu'un ensemble de valeurs et de compétences soit partagé par l'ensemble des membres du projet. Et donc là, on a apparemment un vecteur de préservation de l'identité de la communauté Debian. Et je cite sur une partie du site, on peut lire, voilà. Donc, il est important de connaître l'histoire et la philosophie du projet Debian. Il est important pour la stabilité d'un projet aussi grand et sans structuration hiérarchique que tous les participants travaillent selon les mêmes principes et convictions. Donc, vous voyez, on voit bien que ce contrat social sert sert non seulement de vitrine de la communauté Debian à l'extérieur de la communauté Debian, sert de moyen, de moyen de socialisation par rapport aux membres et de la communauté, c'est-à-dire se référer aux valeurs importantes qui sont consacrées dans le contrat social, mais derrière ce que j'appellerais la scène rutilante du contrat social, il faut gratter un peu. Il faut gratter et on va se rendre compte que tous les débianistes ne se réfèrent pas de la même manière et n'ont pas la même dévotion par rapport au contrat social. Ce qui pourrait paraître à première vue si on ne gratte pas. On voit la présence de ce texte, beaucoup de références faites à ce texte, et on se dit, on pourrait croire dans un premier temps, tiens, mais ce texte, voilà, tout le monde est d'accord au sein de la communauté Debian, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord d'adopter les valeurs qui sont consacrées par ce texte. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Et pendant que j'ai fait l'analyse ethnographique, il y a eu un petit événement qui fait toujours très plaisir à l'ethnographe, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout change, et tout d'un coup, il y a du remue-ménage et il y a de la controverse. Pourquoi ? C'est que, je vais vous faire ça très simplement, c'est que au mois de c'était quand exactement ? Au mois de mai 2006, je crois, plus ou moins, on annonce sur certains sites web informatif très connu, la collaboration de Debian avec l'entreprise Sun Microsystems. Pourquoi faire ? Pour mettre à disposition dans la distribution Debian les paquets Java de Sun, pour ceux qui connaissent, et pour les mettre évidemment dans la section non-free, mais quand même. Donc, on annonce la collaboration. Cette collaboration s'est faite comment ? D'abord, il y a des développeurs Sun qui ont coopéré avec les développeurs Debian et Ubuntu pour préparer les paquets. Deuxièmement, Sun a même modifié quelque peu la licence d'utilisation pour que cette licence puisse être placée dans la section non-free de la distribution. Mais malgré tout, il y a eu des contestations parce qu'on a estimé que, malgré le fait que cette licence a été légèrement modifiée, elle pouvait porter préjudice à la communauté à un moment ou à un autre. Je ne vais pas revenir sur le détail, c'est assez complexe. Mais bref, on se plaint. On se plaint de cette collaboration. Et j'étais habitué, je m'étais abonné à la liste Debian Legal. Et tout d'un coup, la liste se met à crépiter. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a, des données, j'ai vraiment des données empiriques qui tout d'un coup me sautent aux yeux. Les données empiriques, c'est quoi, par exemple? C'est la virulence des propos. Jusque-là, les discussions ont été très courtoises, voire polies, autour des problèmes juridiques, de licence, bref, la routine. Tout d'un coup, on commence à s'engueuler, et s'engueuler assez sérieusement. Deuxième phénomène très intéressant, c'est le phénomène de diffraction des fils de discussion. À partir d'un fil de discussion qui s'appelait Sun Java Available for Non-Free, on va avoir un autre fil de discussion, un autre fil de discussion, un autre fil de discussion, un autre fil de... quatre fils de discussion différents. Les premiers fils de discussion qui naissent concernent cette collaboration. Les derniers fils de discussion concernent quoi ? L'organisation politique du projet, le rôle des contributeurs au projet, le rôle des développeurs Debian au projet. Bref, intéressant, on est en plein débat sur l'organisation elle-même de la communauté autour de cette fameuse section non-free. Deuxième chose, encore troisième indice empirique qui m'a vraiment étonné, c'est le rythme de la discussion, parce que d'habitude, sur cette liste de discussions consacrées aux problèmes juridiques, les discussions au grand maximum s'étalent sur 4 jours pour régler un problème juridique, et là, ça a duré au moins un mois de débats et de discussions intensives auxquelles même les développeurs de Sun ont participé, puisque je vous disais que les listes de discussion sont ouvertes à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est dit ? Quels ont été les arguments majeurs ? Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de nouveau, parce que ça m'amènerait trop loin, mais il y en a qui, explicitement, donc Debianistes, développeurs depuis longtemps, condamnent tout à fait la présence de la section non-free au sein de Debian, ils trouvent ça scandaleux, ils trouvent ça que c'est pas respecter leur travail et leur engagement éthique par rapport à la sphère du libre. D'autres restent fidèles au contrat social et insistent, c'était l'argument que je vous ai présenté tantôt, sur les besoins des utilisateurs, et le fait qu'un utilisateur doit parfois utiliser du non-libre. Alors, on continue dans les débats, et j'essaie d'isoler différents arguments, mais il y en a carrément qui, passez-moi l'expression, qui pète un boulon et qui parle de pacte avec le démon. Donc là, on a carrément cette fameuse guerre entre le libre et la sphère du libre et la sphère du marché, tandis que d'autres montrent l'intérêt de collaborer avec une entreprise privée, d'abord pour sortir de son trou, pour sortir de l'environnement clos dans lequel il travaille parfois, et aussi tout en restant fidèle à ses convictions. Il y en a d'autres, et c'est un argument très intéressant, il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi ne pas collaborer avec Sun, parce que ça leur permet de développer ce que j'appelle une sorte de prosélytisme modéré. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, plutôt que de radical et de dire « à mort le non-libre, on n'en veut pas », leur intérêt, en collaborant avec des développeurs Sun, c'est, avec le travail en commun, d'essayer de mobiliser des arguments en faveur du libre, avec tout en nourrissant l'espoir qu'un jour, ce fameux paquet Java soit ou devienne totalement libre. Et ce type d'attitude est assez fréquent aussi. Donc on voit qu'il y a différentes modalités, différents types de réactions. Alors, de manière générale, évidemment, il y a aussi ceux qui invoquent, et c'est encore un argument un petit peu différent, bien qu'il soit parallèle à ceux que j'ai déjà évoqués, la peur de se faire récupérer par le marché, qui est un phénomène assez connu dans le mouvement du libre, et qui fait partie de certaines stratégies d'entreprise, c'est-à-dire les firmes ainsi espèrent pouvoir bénéficier de la productivité d'une communauté utilisateurs-développeurs à moindre frais, et ça effraie fortement certains Debianistes. Voilà un peu pour vous montrer que à cette occasion, le contrat social a été vraiment débattu, controversé, et qu'on n'a pas une uniformité totale de référenciation par rapport à ce texte. Et que c'est très subtil et que chaque débianiste a une manière différente, sans doute, de s'y référer. Et donc ce texte est vraiment vivant, est vraiment pratiqué et provoque le dialogue. Alors, je vais conclure mon exposé en soulignant deux choses. Mais d'abord que, voilà, vous avez vu que ce texte, souvent, stigmatise les tensions tant politiques qu'organisationnelles au sein de la communauté Debian. Et malgré tout, la section non-free n'a toujours pas été supprimée du contrat social. Donc ça veut dire que malgré tout, c'est un marqueur d'identité, ça fait partie de la singularité du projet Debian. Et ça, c'est une chose. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que comment est-ce que ça s'explique que cette section soit encore... que toute une série de développeurs ne se soient pas enfouis du projet, c'est que, eh bien, il y a une pluralité de motivations qui participent à l'engagement dans un projet comme Debian. On peut être là tout simplement pour le plaisir de la technique, on peut être là pour le plaisir de partager ses connaissances, et on peut être là pour des raisons totalement idéologiques. Et toutes ces choses parfois sont contradictoires, parfois sont chez un même individu coprésentes. Voilà un peu une des observations que je voulais faire. Et donc, ça me permet d'en faire une finale. Oui, j'évoquais en tout début d'exposé, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il y a une constitution, il y a un contrat social. Tout ça a l'air tellement formalisé, tellement sophistiqué. Il y a un formalisme qui s'apparente presque à un formalisme juridique, avec de la législation, des règles. Or, je crois que le mécanisme de régulation au sein de la communauté est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'il induit une forme particulière d'intériorisation des règles. Et si vous me permettez l'expression, je dirais que le rapport à la règle au sein du projet Debian a ce site particulier qui se caractérise par la prééminence de ce que j'appellerais des inscriptions morales, c'est-à-dire une espèce d'éthique, un engagement éthique par rapport au projet. Et c'est l'idée, je partage, je donne, je coopère pour être un bon membre. Pour être un bon membre, sans qu'il y ait une hétéronomie, sans qu'il y ait une loi extérieure qui s'impose à moi sous le prix de la sanction. Et donc on intériorise les règles. Et je trouve une bonne citation que j'ai trouvée aussi sur le site de Debian et qui est assez haute en couleur et assez parfois caricaturale, mais je trouve qu'on comprend bien là. Il existe un contrat social dans la communauté des logiciels libres. Il s'agit d'une formulation de ce que nous voulons rendre à la communauté et notre guide de conduite pour savoir ce qui peut être considéré comme un logiciel libre et ce qui ne peut l'être. Les bons membres prennent des choses de valeur de la communauté sous forme de logiciels que d'autres ont fait et rendent à la communauté sous forme des logiciels qu'ils ont développés. Les mauvais membres se contente de prendre. Alors, ça peut sembler caricatural, mais je pense que ça permet de souligner que ce type de texte a un rôle très actif à jouer et permet de faire le lien entre ce que j'évoquais au tout début, entre ce fameux code informatique et ces fameux copylefts qui n'obligent pas à donner, qui n'obligent pas à partager, et que tous ces textes, notamment le contrat social, fait le lien, fait la connexion et vraiment bâtit l'appartenance et le sens d'appartenance à la communauté. Voilà, je vous remercie de votre attention. No, I can die.
too much.
J'aimerais savoir si, après 2 ans donc de rituel pour rentrer dans la communauté, est-ce qu'on est payé en tant que développeur ?
Non, pas du tout. Je crois qu'il y a des développeurs ici dans la salle, hein. Mais généralement, en tout cas, pas seulement chez Debian, dans d'autres communautés, on considère que la participation se fait totalement sur une base volontaire, non rétribuée. Tout cela entendu que cela n'empêche pas les développeurs d'avoir leur propre travail rétribué dans une entreprise ou l'autre, bien sûr.
Et deuxième question, comment est-ce qu'on peut être sûr que les gens, quand ils prennent, ne vont pas le développer et le revendre ?
Parce que, précisément, donc, c'est ce que j'ai essayé, j'ai peut-être
pas le public, été... je veux dire, le public.
Donc, cette fameuse invention du copyleft. Donc, le copyleft, c'est quoi ? C'est je suis développeur d'un logiciel libre. D'un logiciel, je souhaite que ce logiciel soit libre. Et je souhaite que cette intention, qu'il soit libre et qu'il reste libre, soit perpétuelle. Et donc, j'associe une licence d'utilisation, donc un contrat, qui force toutes les personnes qui souhaiteraient ensuite distribuer ce logiciel à maintenir ce logiciel gratuit, par exemple, quoi qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, à le maintenir libre et à ne pas le vendre. Sauf que, voilà, le vendre, oui, mais pas... Exactement. Merci. Tout à fait, c'est le but. C'est le but, c'est de modifier et alors, bien sûr, de continuer à faire en sorte que ces modifications restent disponibles pour les autres. Et donc, j'avais évoqué le terme de viralité, c'est-à-dire que le copyleft, cette fameuse licence de réutilisation, elle agit presque comme, si on me permet la métaphore, comme un virus. Et elle suit, elle contamine toutes les œuvres successives. Ces œuvres vont devoir rester libres. Bien sûr, on peut entrer dans les détails. Il existe une multitude de licences, et des licences qui sont soft, et des licences qui sont hard. Donc on pourrait dire hard, qui respecte la liberté et les fameuses 4 libertés que j'ai évoquées, et des licences qui sont plus soft, et qui modalisent les manières dont le logiciel peut être utilisé, modifié, amélioré, redistribué. Voilà. Est-ce que tu peux préciser ta question ? Comment on vérifie quoi ? Non. C'est à qui qu'on parle ? À moi ? Ok. Ok.
Donc, est-ce qu'il y a une sorte de police du copyleft qui surveille le fait que ce n'est pas utilisé à des fins privées ?
Non. Oui. Il y a la copyright notice qui fait que...
Mais j'ai quand même entendu de certains... Enfin, il y a des équipes parfois de légales qui essaient de récupérer quand on a vu une violation flagrante dans une entreprise, des choses comme ça.
Oui, mais tu dis,
c'est très très faible et ça ne marche pas toujours.
Il n'y a pas d'organisme institutionnel.
But you could say that to become a bad member is some kind of policing, no?
Oui, il y a un côté effectivement très... Bon, de nouveau... C'est une mention qui est faite sur le site. Et je l'ai prise exprès parce qu'elle est caricaturale. Bien sûr, parce qu'elle marque précisément cette inscription morale que j'évoquais. Mais tout le monde est conscient dans la communauté libre qu'il y a cette, ce que un sociologue appelait la capacité exit. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment... On peut se tirer, on peut prendre ce qui nous intéresse et partir, aller ailleurs, changer de communauté, ou pas aller ailleurs. Mais oui, effectivement, c'est assez chargé comme.
Are there more questions?
Est-ce que au début, quand ça commençait, il y a eu une discussion sur l'utilisation des termes comme contrat social, comme constitution, que c'est des termes que, enfin, qu'on cherche une nouvelle façon de socialiser et on utilise de vieux termes.
Oui. Dans toutes mes recherches, j'ai pas pu trouver. Peut-être qu'il y en a, parce que comme j'expliquais, il y en a des documents sur ce site, mais j'ai pas trouvé effectivement de discussion sur. Sur pourquoi et pour quelles raisons reprendre des termes qui sont connotés autant historiquement et philosophiquement.
Parce que c'est un peu aussi ce côté caricatural que comme
je pense
les
aussi
bons
que,
utilisateurs, les mauvais.
Je pense aussi que la.
Presque religieux.
Que on parlait de la performativité. Ça fait, c'est un des thèmes du débat du festival. C'est la performalité liée au concept même, c'est-à-dire le fait d'utiliser constitution, ça induit déjà une certaine forme d'attitude et de respect ou de d'éthique ou de comportement des membres de la communauté. Mais j'ai pas, c'est vrai que ça serait une très bonne piste, pas trouver de débat autour de lui pourquoi utiliser effectivement ces anciens termes. Ouais.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de l'organisation démocratique entre guillemets de Debian, par exemple, qui va décider à un moment donné de réviser ce contrat et comment est-ce que ça se passe? Vous avez parlé d'élections aussi tout à l'heure. J'aimerais bien savoir
alors,
un petit peu plus.
Je vais oui, mais on peut. C'est une question difficile parce que c'est des procédures que je n'ai moi-même pas retenues. Tout simplement parce qu'elles sont dans la Constitution et que la Constitution donc organise un certain nombre de procédures pour réviser le contrat social, pour soumettre par exemple, et ça c'est très intéressant, pour soumettre des résolutions générales, de nouveau langage onusien presque. Et dans la Constitution, on trouvera par exemple, je sais que les développeurs, donc il faut savoir, je reprends dès le début pour être clair, tous les développeurs Debian, donc le millier de développeurs Debian, ont un compte Debian, une adresse email Debian et un droit de vote. Okay. Seuls les développeurs Debian votent. Ça veut dire que les utilisateurs, et ça c'est un gros problème, mais on pourra en reparler si vous voulez, les utilisateurs et les contributeurs non développeurs n'ont pas de droit de vote. Et pourtant, il y a des contributeurs qui contribuent, je peux vous assurer, bien plus que certains développeurs. Soit, c'est un problème inhérent à la communauté Debian qui ne se retrouve pas dans toutes les autres communautés. Par exemple, dans la communauté Ubuntu, je crois, on reconnaît le statut de contributeur. Soit. Donc, voilà un peu, tous les développeurs ont un droit de vote. Tous les développeurs ont le droit de soumettre une résolution générale pour modifier le contrat social. Pour, et ça c'est par exemple très intéressant, révoquer le chef de projet. Donc, alors, selon une procédure particulière, la procédure particulière c'est qu'il en faut un certain nombre, il faut que le vote se passe d'une certaine manière, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, même s'il y a évidemment de fait une hiérarchisation de compétences, de statut politique au sein de la communauté. Par exemple, même le chef de projet qui a été élu pour une période peut se faire révoquer. Et à cette occasion, un certain nombre de développeurs peuvent décider d'engager une procédure de vote pour mettre en cause la politique du chef de projet. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le fonctionnement, en tout cas d'un point de vue, je dis bien d'un point de vue formel, au niveau de la Constitution, au niveau des règles, il y a une vraie horizontalité. On est tous sur le même pied. Le chef de projet étant finalement quelqu'un qui doit faire des public relations, donc représenter la communauté à l'extérieur, et doit organiser la communauté, mais et à plein de reprises dans la Constitution, mais vraiment à plein de moments, il y a des dispositions qui insistent sur le fait que tout doit tout le temps être basé sur un processus de dialogue entre développeurs et chefs de projet, entre les développeurs et le comité technique. Donc, processus vraiment ultra, ultra démocratique, où vraiment où on a affaire à une démocratie de type délibératif. Chacun parle, il se fait évidemment, et ça c'est l'analyse ethnographique après qu'il révèle, et c'est intéressant, c'est que d'abord il faut comprendre toutes ces procédures, il faut les maîtriser. On constate qu'il y a certaines personnes qui jouent de fait un rôle dans la communauté plus important que d'autres et qui vont eux-mêmes systématiquement participer plus que d'autres à la vie politique du projet. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Oui. Donc oui, ce principe d'égalité, en tout cas formelle, tout le monde participe, tout le monde doit parler, et il n'y a pas, en tout cas formellement, constitutionnellement, une figure qui ferait plus autorité que les autres.
I have many more questions, but I think we need to go on to lunch now. We even have to eat fast to keep a bit the pace going. So thank you very much.
You're welcome.
And
merci.
So I propose to be here in half an hour. Yes, lunch will be served.